Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, médium. On va dire que, genre, je vais pas bien. Je suis pas non plus à mon top mood, mais mon cœur. Oui, mon cœur est fonctionnel, mon corps est fonctionnel. Genre, tout va bien, je suis en santé. C'est la base. Aujourd'hui, je vais pas vous saouler, promis, avec mes pensées cheloues et mon mood de caca. Aujourd'hui, on va parler de dépendance affective, parce que j'ai l'impression que je suis très bien Bon, ça va être compliqué. On va essayer de parler français aujourd'hui, Davy, s'il te plaît. J'ai l'impression d'être bien placée pour en parler en tant que grande dépendante affective. Je crois que je le suis toujours, d'ailleurs. C'est pour ça que je me dis que c'est le bon moment d'en parler, parce qu'on n'est pas encore passé au-dessus de cette phase d'avoir besoin de la validation constante des gens autour de moi pour me sentir bien dans ma peau et dans ma tête. Et j'ai beau faire genre et faire comme si c'était pas le cas, il faut voir la réalité en face, c'est le cas. Et je m'en suis rendu compte il n'y a pas très longtemps, là. Je me suis dit, mais Davy, pourquoi tu as tout le temps besoin d'aller te réconforter, d'aller regarder tes commentaires et tes DM, et puis dès que tu reçois un truc un peu moins gentil, tu te braques et tu te dis genre, oh, genre c'est moi le problème, et tu te remets en question. C'est parce que tu n'as pas encore assez confiance en toi, tu es dans le déni, tu fais genre que tu as confiance en toi, ce n'est pas vrai. Et tu as aussi un gros problème de dépendance affective. Je pense que j'ai passé la pire période. C'est vraiment une période où c'était... je vivais à travers ma relation, je vivais à travers les yeux de mon ex. Donc je crois que ça a été la pire période. J'étais à mon pic de la dépendance affective. Je n'étais que le partenaire de quelqu'un. Je n'étais pas une personne à part entière, vraiment. Donc on va dire que là, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. J'ai quand même appris à m'apprécier un peu plus. J'ai un peu plus d'estime de moi-même. Et je sais que voilà, la personne qui est avec moi, mes amis, ma famille... Ils sont là pour me soutenir, ils sont là pour m'apporter de l'amour et bref, toutes les choses dont un humain a besoin pour être heureux, mais ils sont pas là pour me porter à bout de bras. Je peux réussir sans avoir besoin qu'on soit tout le temps en train de me dire « C'est bien, continue comme ça, tu es une très bonne personne, je peux le penser moi-même. » Est-ce que c'est le cas tout le temps? Non. Est-ce que c'est compliqué? Oui, mais maintenant j'en ai conscience. Avant, c'était pas le cas. Avant, vraiment, je... Alors, on va essayer de revenir un peu, genre, à l'époque où j'étais petite enfant, et j'essaye de remonter un peu à la source de... On va essayer de faire comme ce qu'un psy ferait si j'étais devant lui et que... ou elle, et que je me livrais, chose que j'ai pas faite depuis très longtemps. Ça fait longtemps que j'ai pas été en thérapie. Je me dis, ça me ferait peut-être du bien. D'ailleurs, ouais, les gars, la thérapie, c'est pas tabou, hein. On en a tous besoin. Si t'es humain... T'as besoin de thérapie et de parler à quelqu'un. Genre, c'est sûr, ça. Si tu tombes sur la bonne personne, ça peut que te faire du bien. Mais bref, je pense que depuis petite, en tout cas, c'est les souvenirs que j'ai toujours eu besoin d'avoir des yeux sur moi. J'ai toujours eu besoin d'être le centre de l'attention. Alors, il y a une période où ça a vachement changé, mais si on part de mes plus lointains souvenirs, qui sont, je crois, mes souvenir le plus jeune, je crois que j'avais 2 ans ou 3 ans. Vraiment, j'ai des souvenirs vivides de mon enfance. Je sais qu'il y a des gens qui ne se souviennent absolument plus de rien et que leur vie, genre, elle commence quand ils avaient 8 ans. Mais moi, vraiment, j'ai des souvenirs hyper lointains. Même des fois, je parle avec ma mère et je lui raconte des trucs et elle me dit « Comment tu fais pour te souvenir de ça ?» Mais moi, je m'en souvenais plus. Je me souviens que quand j'ai eu mon petit frère... j'étais trop contente d'avoir un petit frère. Vraiment, c'était pour moi, j'ai pris mon rôle de grande sœur et je le prends encore aujourd'hui, même si j'ai l'impression que mon petit frère est plus vraiment petit. À chaque fois, je rigole parce que je dis mon petit frère parce que c'est mon petit frère. Et puis quand les gens voient une photo de mon petit frère qui fait approximativement 2 têtes de plus que moi et qui a une barbe, qui a une copine, qui a une voiture, qui a 22 ans, les gens rigolent. Ils disent « Ah, c'est lui ton petit frère !» Ouais, c'est lui mon petit frère, y a quoi? C'est mon bébé, genre, arrête, ok? C'est pas parce qu'il est plus grand que moi et qu'il a des poils que c'est plus mon petit frère, ok? Mais ouais, j'ai pris mon rôle de grande sœur très 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 à cœur. Et c'était vraiment les plus beaux souvenirs, tu vois. Quand j'ai eu mon petit frère, j'ai... Oh mon Dieu, je l'aime de tout mon cœur. Enfin bref, on s'en fout. Mais je me souviens que j'ai commencé à me sentir un peu... Genre j'étais contente d'avoir un petit frère, mais j'avais aussi peur que l'attention soit plus autant sur moi. Donc je commençais à avoir un peu des... Je commençais à faire mon intéressante devant mes parents. Genre, j'ai commencé à me donner en spectacle. C'est là qu'a commencé mon obsession avec les spectacles. Ça a duré longtemps. Hein. De mes 4 ans jusqu'à mes bien 12 ans, j'organisais des spectacles toutes les semaines à mes parents. Il y a des vidéos très, très gênantes qui existent, que si un jour j'ai l'occasion, je me ferai un plaisir de brûler. Voilà, mais il y a vraiment des vidéos hyper gênantes, dont une en particulier où genre j'ai 6 ans, j'avais volé des bottes à ma mère et j'avais volé une nuisette. Donc vraiment plus comment dire, malaisant et gênant et genre vraiment la sexualisation d'un enfant dans sa splendeur. Vraiment ces images elles sont malaisantes. Un jour mon père a eu le malheur de les passer à un de mes anniversaires devant toute ma famille. Et lui, il voyait pas le mal, tu vois, parce que c'est mon papa et que... Enfin, voilà, quoi. Il voit juste sa gamine qui danse devant une caméra sur du Beyoncé. Moi, je voyais vraiment une gamine de 6 ans en train de se déhancher avec des cuissardes. Enfin, hyper gênant. Mais bref, j'ai commencé à faire un peu mon intéressante, à faire ma star. Ok, rien de plus normal, je suis une enfant, vous me direz. Enfin, je pense que je suis pas la seule à être comme ça. Mais voilà, je commençais à faire un peu ma star. Et je sais pas, j'ai commencé à développer une sorte de besoin qu'on me fasse sentir que j'étais importante. Et j'avais l'impression que si je faisais pas tout pour avoir les yeux rivés sur moi, ben, j'étais un petit peu laissée de côté ou mise à l'écart. Ce qui, sûrement, était totalement faux. Et puis je me dis, enfin, mes parents ont fait un très bon job. Hein. En même temps, on n'était que 2 enfants. Donc c'était pas non plus, c'est pas comme si j'avais grandi dans une famille de genre 6 enfants et que je m'étais sentie mise à l'écart parce que justement ma mère avait besoin de s'occuper de genre mes 5 frères et sœurs. Non, j'ai grandi dans une maison avec mon petit frère et bref, j'ai toujours eu l'attention dont j'avais besoin, mais c'est comme si j'en avais jamais assez. Enfin, en tout cas, c'est les souvenirs que j'ai. J'avais toujours besoin de plus. Il n'y a pas longtemps, je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que je suis narcissique? Je vous jure, et j'ai eu peur le temps de quelques secondes, je me suis dit, mais imagine en fait, je suis une grosse narcissique qui a juste besoin que tout le monde la regarde et qui se kiffe tellement. Je ne sais pas trop comment on définit un narcissique. Attendez, venez, on va regarder la définition sur Google. Qu'est-ce que c'est être narcissique? Parce que je pense pas qu'avoir besoin de validation, ça c'est être narcissique. Je crois que les narcissiques, ils savent déjà, enfin ils ont l'impression en tout cas Alors, le trouble de la personnalité narcissique est caractérisé par un sentiment constant de supériorité, mégalomanie, un besoin d'être admiré et un manque d'empathie. Ok, donc c'est tout l'opposé de moi. Donc on respire. Voilà, donc c'est ça en fait. C'est que je pense que les narcissiques, ils se sentent supérieurs. Donc c'est pour ça qu'ils ont besoin de le montrer et de se mettre au centre de l'attention. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils sont genre des surhumains. Et ils aiment être admirés et ils ont un manque d'empathie. Étant la personne la plus empathique du monde, c'est-à-dire que vraiment la dernière fois sur la plage, j'ai chialé parce que une dame a lancé la balle de son chien. Et son chien, enfin, genre en gros, elle l'a lancé trop loin, c'est tombé genre dans un trou entre des rochers. Bref, le chien a perdu sa balle. Et juste la tristesse sur le visage de ce chien, je vous jure, je pense que c'est parce que j'avais de la musique dans les oreilles et que j'avais l'impression d'être dans un film. J'ai chialé parce que ce chien avait perdu sa balle. Donc je pense qu'on est au pic de l'empathie, même un peu trop empathique. Donc je suis pas narcissique. Ouf, on est sauvés, les gars. Bref, je m'égare de ouf là. Je parle beaucoup. Ouah, aujourd'hui, c'est compliqué de canaliser. Hein. J'ai aussi bu 3 cafés ce matin. Donc je suis désolée si je suis un peu insupportable à écouter. Mais ouais, pour revenir, en gros, globalement, c'est un truc que je ressens depuis que je suis petite. Le besoin un peu de validation extérieure. Et je me. C'est pas que je me vexe pas facilement, je dirais pas que je suis susceptible. Enfin, en tout cas, j'ai appris à ne plus vraiment l'être aujourd'hui parce que sinon, je pourrais pas faire le travail que je fais. Si j'étais susceptible, j'aurais envie de me tirer une balle tous les matins parce qu'il n'y a pas un matin. Enfin, j'ai quand même de la chance. J'ai pas des gens méchants majoritairement qui me suivent. Mais comme toute personne qui est exposée sur les réseaux, je reçois des messages méchants comme ça de temps en temps. Et si j'étais susceptible, je prendrais tout très 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 à cœur. Et ce qui n'est pas forcément le cas parce que j'ai appris à passer au-dessus. Mais on va dire que je me remets très rapidement en question. Je prends à cœur ce que les gens me disent sur moi. Est-ce que c'est exactement la même chose que d'être susceptible? Peut-être. Peut-être que je suis susceptible. Je sais pas. On va dire que non, parce que je montre pas que je le prends à cœur. C'est-à-dire que il faut vraiment y aller pour que je m'énerve ou que je montre ou que je me mette à chialer. Il faut vraiment y aller très fort. Il faut vraiment être très méchant avec moi. Tu vas me dire quelque chose, tu vas me faire un commentaire. Tu vas me dire « Ah ouais, à ta place, j'aurais pas fait ça comme ça » ou « Ouais, je te trouve un peu comme ça ces derniers temps » ou « Je suis un peu déçue de toi » ou bref, tu vas me dire un truc à connotation un peu négative sur moi et sur le coup, je vais juste faire... je vais accepter. Je vais accepter et je vais vraiment faire genre comme s'il n'y avait pas de soucis en mode « Ouais, t'inquiète, je comprends et tout, il n'y a pas de problème mais je suis désolée et je m'excuse et tout. » Et ensuite, ce truc, il va me suivre pendant des jours et des jours et des jours et je vais l'analyser, le décortiquer dans ma tête. Je vais essayer de me dire « Ok, qu'est-ce que je peux faire pour que cette personne, elle pense quelque chose de différent ?» Comment je peux changer, qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien, et pourquoi cette personne elle m'apprécie pas, et pourquoi... Et enfin bref, je vais tout décortiquer dans ma tête et aller beaucoup, beaucoup, beaucoup trop loin pour un truc qui... Attendez, je crois que j'ai reçu... Oh non, mais c'est une blague. J'avais commandé un matcha et ils ont... Oh non. Ils ont annulé ma commande. Ah bah super, vous êtes sérieux les gars? Eh oh. Attendez, je vais recommander, je recommande et j'arrive. Bon, ok, apparemment, il n'y a pas de driver de disponible. Je suis dégoûtée. Bon, je vais m'en remettre, tout va bien se passer. Je disais quoi déjà? Ouais, je fais partie de cette team de personnes qui va tout prendre un peu à cœur, mais qui va le penser très fort en cachette et qui va ensuite agir. Et qui va un peu changer. C'est pas changer pour les gens, mais un peu quand même. Un peu quand même. Soyons honnêtes, appelons un chat un chat. Et c'est chiant, franchement, je vais pas vous mentir, c'est chiant parce que, vas-y, enfin, au bout d'un moment, tu peux pas plaire à tout le monde et c'est un peu une quête interminable de vouloir, d'avoir le besoin que tout le monde t'apprécie. C'est pas possible. Moi-même, en tant que personne, je n'aime pas tout le monde. Je pense que j'aurais un peu du mal à vous citer une personne que je n'aime pas parce que, genre, c'est pas vraiment une énergie que j'aime. J'aime pas perdre mon énergie à ressentir des choses négatives pour quelqu'un. Donc en fait, si je t'aime pas, c'est pas que je t'aime pas, c'est que je te squeeze de... Enfin, je suis neutre. Genre, j'ai aucune pensée sur toi parce que je paye pas attention à toi. Je vais pas perdre mon temps à trouver des choses que j'aime pas chez toi ou à me dire genre, ah, cette personne, je l'aime pas. À part si vraiment t'es purement méchant. Genre, t'es une personne purement méchante. Mais, tu sais, enfin, c'est normal. T'as des personnes que t'apprécies, t'as des personnes que t'apprécies un peu moins. C'est la vie. Et les gens ont le droit aussi de ressentir ces choses envers moi. Les personnes, les gens peuvent se dire, bah, cette meuf, elle m'énerve. Cette meuf, elle est pas hyper intéressante à mes yeux. Je l'apprécie pas. Voilà. Et ça, c'est un truc qu'il faut que j'accepte et que je me dise que c'est pas moi le problème. Si quelqu'un ne t'apprécie pas et si quelqu'un est vocal et te le fait savoir, prends l'information en compte, remets-toi en question si t'as besoin de te remettre en question, chose qui n'est pas tout le temps nécessaire, parce que si tu commences à tout le temps te remettre en question dès que quelqu'un te dit un truc négatif, tu vas jamais t'arrêter, vraiment tu ne vas jamais t'arrêter, il y aura toujours quelqu'un pour te dire un truc qui va pas chez toi, genre c'est comme ça, donc ouais, genre prends les choses avec un peu des pincettes et si tu dois te remettre en question, remets-toi en question. Mais pour en revenir du coup à la dépendance affective, parce que je vous allez comprendre pourquoi tout a un rapport, c'est que étant de base ce genre de personne depuis que je suis petite, On top of that, comment on peut traduire ça en français? Les Anglais ont des expressions mille fois mieux, je suis désolée, hein. Je suis de la meuf chiante, hein, qui parle tout le temps en franglais, vous le savez maintenant, mais ils ont des expressions mieux que les nôtres. Par-dessus tout ça. En fait, non, c'est aussi bien en français. C'est aussi bien en français, j'ai purement fait la meuf là. Ok, donc par-dessus tout ça, donc par-dessus le fait que déjà de base, je suis une personne comme ça qui se remet en question rapidement, qui a un peu besoin que les gens l'apprécient pour se sentir bien, j'ai un manque de confiance en moi énorme qui m'a rafalé la tête à mon adolescence. Je pense que l'adolescence, c'est le moment où vraiment tu prends conscience de la personne que t'es. Tu sais, quand t'es enfant, t'es un peu en mode pilote automatique. Tu fais ta vie, t'es un enfant, tu te lèves le matin, tu fais ce qu'on te dit de faire, t'as pas vraiment de responsabilité, tout ce que tu dois faire, c'est rester en bonne santé, faire tes devoirs et être un enfant en fait. Apprendre des choses et juste te laisser guider par les personnes qui sont plus grandes que toi et qui sont censées te mener vers le bon chemin. Ça existe ça, le bon chemin? Je sais pas. Bref, t'as compris, c'est un peu pilote automatique et tu te poses pas non plus 36 000 questions sur toi-même. T'es plus en train de te poser des questions sur l'extérieur que d'introspection. Genre c'est rare qu'à 6 ans tu te poses sur ton lit et que tu te dises quel est mon but dans la vie? Pourquoi je suis là? Qui suis-je vraiment? C'est pas des questions que tu te poses quand t'as 6 ans, ou alors si c'est le cas, peut-être que t'es surdouée et peut-être qu'il y a un truc, j'en sais rien, mais moi en tout cas je sais que je me posais quand même des questions un peu profondes quand j'étais petite. D'ailleurs je vous en avais parlé, mais j'étais en thérapie super jeune, mais c'était pas des questions vraiment sur moi, la personne que j'étais. C'était plus des trucs genre pourquoi on doit partir un jour? Pourquoi on doit grandir? Des trucs un peu comme ça. Et à l'adolescence, c'est là où j'ai commencé à me regarder sous un angle différent. J'ai commencé à faire attention à comment je m'habillais. Alors qu'avant, c'était ma maman qui m'habillait pour aller à l'école, tu vois. Tu rentres au collège, tu commences à avoir tes premiers crushs. Enfin bref, tu commences à regarder ton corps d'une façon différente, surtout. Je me rappelle, moi, de la première fois où j'ai commencé à regarder mon corps d'une façon un peu plus... C'est pas sexuel, mais je sais pas comment dire. Si, je pense que c'est ça, que j'ai commencé à sexualiser mon corps de femme. Mais non, j'étais pas une femme. Je suis désolée, à 12 ans, t'es pas une femme. Mais bref, j'ai porté un jogging. On était en cours de PS. Je portais un jogging. Et à cette époque-là, on était en duo. J'avais une meilleure copine. Vraiment, enfin, on était le duo infernal. Et c'était, je crois, la plus mauvaise fréquentation que tu puisses avoir. Vraiment, mes parents étaient dégoûtés. T'as un job quand tu rentres au collège, c'est de te faire des potes, mais des bons potes, chez qui tu vas faire des goûters le mercredi après-midi, t'es invité aux anniversaires, enfin bref, fais-toi des potes, mais s'il te plaît, des potes qui ont quand même une bonne influence sur toi. Non, moi j'avais choisi la pire personne de la classe. On était convoqués chez le CPE, H24, elle me faisait sécher les cours. Je remets toute la faute sur elle, hein, mais c'était aussi beaucoup de moi, enfin, j'ai voulu me faire influencer aussi, attention. Hein. Mais vraiment... On était les deux petits diables de la classe, c'était nous, et on était insupportables. Et en EPS, un jour, du coup, j'avais ce jogging, et je sais plus exactement, mais genre, je monte les escaliers, et j'entends des garçons rigoler derrière. J'entends des garçons, genre, rigoler, et me regarder et tout. Et ma copine, du coup, qu'on va appeler, j'en sais rien moi, Lisa, elle s'appelait pas du tout Lisa, on va l'appeler Lisa, elle me dit, ouais, ils ont remarqué. J'ai dit, quoi, qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Tu sais, genre, moi, innocente, de quoi ils ont remarqué? J'ai une tache, qu'est-ce qui se passe? Et je lui dis, quoi? Ils ont remarqué que t'as un beau cul dans ton jogging. Et moi, je vous jure, genre, je me suis dit, quoi? J'ai un beau cul dans mon jogging? La phrase, c'était comme si tu me parlais chinois. Je me suis dit, mais de quoi mon cul? Enfin, mon cul... J'avais jamais réalisé que mon corps pouvait être... Enfin, je sais pas comment expliquer le sentiment, mais, tu sais, je me suis posé la question. Et quand je suis rentrée chez moi le soir... Je me suis retournée et je me suis regardée en miroir pour la première fois, sous un angle que je n'avais jamais regardé. Ça m'était jamais venu à l'esprit de ma vie de me tourner et de regarder mon corps. Qu'est-ce qu'il y avait derrière, à quoi ça ressemblait. Et c'est là que j'ai commencé un peu à me découvrir. C'est là que j'ai commencé à foutre des chaussettes dans mon soutif pour avoir des seins plus volumineux. Faites pas genre les meufs. Je pense pas qu'on l'a toutes fait, mais on a quand même été beaucoup à le faire. Ok. Et c'est là aussi que commencent toutes les moqueries et les trucs un peu bêtes et méchants qu'on entend quand on est adolescent. Et c'est vraiment, l'adolescence, c'est une plaie, hein. Vraiment, enfin, je dirais que j'ai pas mal vécu mon adolescence. Je crois que c'est pire la vingtaine, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ouais, l'adolescence, c'est la pire période de ta vie et t'es en train de te chercher et tout. » Je crois que tu... Quand t'arrives dans ta vingtaine, tu te rends compte qu'en fait, tu t'es toujours un adolescent avec des responsabilités en plus. Et du coup, c'est encore pire. Et du coup, j'étais hyper mal dans ma peau. Vraiment, hyper tôt dans ma vie, j'ai commencé à être mal dans ma peau, à me sentir mal dans mon corps, à me sentir mal... Je détestais mon visage, je me cachais. J'ai eu une période où mon nez, c'était le plus gros complexe que j'avais. Alors que le nez, c'est vraiment littéralement au milieu de ta tête. J'avais aucune raison de complexer. D'ailleurs, pour vous dire à quel point c'est... Enfin, c'est ironique et comme quoi, enfin, vraiment, t'as une vision déformée de toi à certaines périodes de ta vie. Mais aujourd'hui, mon nez, c'est un de mes trucs favoris sur mon visage. Genre, pour rien au monde, je voudrais le changer. Alors qu'il y a littéralement une période de ma vie... où j'aurais vendu un rein pour payer une opération pour me faire pour changer mon nez, vraiment. Et je le cachais. En fait, je mettais mes cheveux devant, ou dès que je pouvais mettre ma main devant mon visage, je mettais ma main devant mon visage. C'était, j'osais pas regarder les gens dans les yeux pendant très longtemps, pendant très 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 longtemps, j'osais pas regarder les gens dans les yeux. J'ai commencé vraiment à être mal dans ma peau, et c'est là que j'ai commencé à découvrir aussi l'amour, hein, voilà. Je suis tombée amoureuse pour la première fois. Et l'amour, ça a été très, très, très fort pour moi. Dès le début, hein. Je suis tombée amoureuse, mais je suis tombée vraiment tombée, hein. Je sais que je parlais en plus récemment avec une copine. Et c'est fou parce qu'on a toutes les deux, on a eu un rapport à l'amour complètement différent. Il y a des filles qui ont leur premier amour hyper tard dans leur vie. Qui ont leur premier amour dans leur vingtaine, et qui, avant ça, on en avait absolument rien à faire. Des filles, des gars, peu importe, vraiment, c'était un truc qui ne les importait pas. Et moi, non. Et je pense que, justement, c'était lié au fait que j'avais tellement pas confiance en moi que le fait qu'un garçon me donne, ou une fille d'ailleurs, mais c'était majoritairement des garçons. Enfin, j'ai pas eu ma première copine, je l'ai eu seulement quand j'avais 16 ans, donc on va parler de garçons, mais le fait qu'un garçon me donne un peu d'attention... Pour moi, c'était genre... Oh, c'était une lumière... je sais pas, ça allumait un truc en moi. Et ça me faisait juste du bien. Le fait que de me dire qu'un garçon voyait quelque chose chez moi... Je pense que les personnes qui s'en foutaient complètement de l'amour avant un certain âge, peut-être que c'est des gens qui, justement, avaient peut-être d'autres priorités parce qu'ils n'avaient pas forcément ce... Je sais pas, peut-être que je dis n'importe quoi. J'allais dire, c'est peut-être des gens qui avaient plus confiance en eux et qui, du coup, n'avaient pas besoin de sentir cette validation constante pour se sentir bien. Mais peut-être que je dis de la merde, donc je vais rien dire. Mais en tout cas, moi, je pense que c'était lié à ça, parce que dès que j'ai eu mon premier amoureux, qui était le gothique du collège... C'est trop drôle, putain, cette période de nos vies, c'est fou quand même. Genre, il écoutait du Nirvana tout seul au fond de la cour, il était hyper grand, il avait les cheveux longs, il avait des bracelets avec des pics, il s'habillait tout le temps en noir. Donc, évidemment, qu'est-ce que j'ai commencé à faire ? J'ai commencé à moi aussi vouloir m'habiller en noir du jour au lendemain, à me mettre à écouter des musiques que je n'écoutais pas. J'ai jamais été une fan de métal de ma vie, mais alors à cette période-là, dans mon iPod, il n'y avait que ça. Et je subissais, hein, les gars. Je subissais le matin, je me forçais à écouter en me disant « Si j'écoute, je vais aimer et tout, et ça va aller. » Et non, Davy, c'est juste pas fait pour toi. Et encore aujourd'hui, je ne supporte pas ça. Et j'ai un chéri qui adore. J'ai un chéri qui vit pour le rock et pour le métal. Et je ne me cache pas aujourd'hui de lui dire que je ne supporte... C'est pas que je supporte pas. Je respecte tous les styles de musique. C'est juste pas un style de musique que j'écoute. Je préfère le R&B tout doux et les gens qui me chantent des petits mots d'amour dans les oreilles, tu vois. Mais j'ai commencé à vouloir changer pour ce garçon, ce qui a marché. J'ai attiré son attention. On est sortis ensemble. On se parlait sur MSN tous les soirs. Quand je répondais pas, il m'envoyait des whiz. C'était ma... Ouais, quelle époque. Oh, je suis nostalgique quand même. Genre, c'était pas une époque où j'étais heureuse, mais je suis nostalgique parce que les whiz, quoi, les gars. Tout ton écran, il se mettait à trembler, genre. C'est fou comme c'était intrusif. Heureusement que ça existe plus, quand même. Hein. Imagine, t'es tranquille sur ton téléphone, tu ghostes un peu les gens, genre t'as la flemme de répondre aux gens, et les gens, ils peuvent t'envoyer un truc qui fait vibrer tout ton téléphone. Il y a tout qui se met à trembler, comme ça, et tout... Putain, heureusement que ça existe plus. Heureusement que ça existe plus. Mais j'ai commencé à changer pour ce mec, et c'est là qu'a commencé le cercle vicieux de... dévier la dépendance affective, quoi. Je ne vivais qu'à travers les yeux de ce garçon, c'est-à-dire que je voulais, tout ce qui m'importait, c'était de lui plaire. Tout ce qui m'importait, c'était de me sentir aimée par lui, de me sentir regardée, appréciée par lui, et tout le reste, je m'en foutais. Je gommais tous les traits de personnalité que j'avais, sachant que, ben, voilà, quand t'es adolescent, t'as pas non plus une personnalité très forte. Enfin, en tout cas, moi, j'étais un petit peu, voilà, une glace à la vanille, quoi. En mode, ennuyante, un peu. Enfin, je suis méchante. Je suis méchante de dénigrer l'ancienne Davy, parce que la petite Davy d'avant, là, elle aimerait bien un câlin de la Davy de maintenant, et elle aimerait pas savoir que je suis en train de dire des trucs méchants sur elle. Donc non, mais... Disons que je suivais un peu... J'étais un petit peu un mouton... Enfin... Non, encore une fois, c'est méchant, mais... Je m'adaptais. Je m'adaptais à mon environnement. Ok ? Il m'a brisé le cœur. Évidemment, sans surprise, un premier cœur brisé. Et là, horrible. Vraiment horrible. Horrible, hein. Le cœur brisé en mille morceaux. Je voulais plus aller à l'école. Je voulais plus rien faire. Je voulais juste qu'il soit re-amoureux de moi. Et... Évidemment, le seul moyen que j'ai trouvé pour passer au-dessus de ce cœur brisé, c'était de trouver quelqu'un d'autre pour le remplacer. Et pour vous dire à quel point c'est allé loin, c'est que ce mec a changé de collège. J'ai changé de collège pour le suivre. Alors qu'on n'était plus des amoureux. Hein. Genre juste, j'ai réussi à convaincre mes parents de me changer de collège parce que je ne supportais pas juste l'idée de me dire que je ne serais plus dans le même endroit que lui. Ça me faisait péter un câble, parce que pour moi c'était genre ma raison de vivre, je vivais à travers ce mec, et voilà, le seul moyen de passer au-dessus de ça, ça a été de tomber amoureuse de quelqu'un d'autre, et de revivre exactement la même chose, de complètement changer de personnalité, de vivre à travers l'amour qu'on avait l'un pour l'autre. Est-ce qu'on peut appeler ça de l'amour quand on est adolescent ou pas? Telle est la question, parce qu'on sait pas vraiment ce que c'est l'amour, et c'est généralement des sentiments, enfin... Les relations qu'on a quand on est adolescent, c'est les trucs les plus toxiques de la Terre. Je veux pas de débat sur ça. On est toxique quand on est adolescent parce qu'on sait pas comment aimer correctement. Tu vois ou pas? On s'apprécie pas déjà assez nous-mêmes pour... C'est pas possible. C'est pour ça que j'ai vraiment énormément de respect pour les gens qui sont encore avec leur premier amour. Et je veux absolument faire un podcast, justement... avec deux personnes qui sont ensemble depuis genre leur 17, 16 ans, parce que pour moi c'est fascinant. C'est fascinant de me dire comment ils ont fait pour transformer un amour. Genre la première fois que tu ressens des sentiments, c'est tellement fort, c'est tellement too much. Comment tu fais pour que ça évolue bien dans le temps? J'ai l'impression que le premier amour, enfin, c'est vraiment mon expérience à moi, et peut-être que c'est hyper triste de penser comme ça. Mais pour moi, le premier amour est forcément voué à l'échec. C'est voué à l'échec parce que tu peux pas aimer comme ça toute ta vie, c'est pas possible. Enfin, c'est mauvais, c'est malsain pour toi de te donner à corps perdu à quelqu'un, d'être complètement... de te sentir bien que quand t'es avec la personne. Ça, je l'ai ressenti pourtant, hein. Je l'ai vécu et la dernière fois que j'ai eu le cœur brisé en mille morceaux, chose que je me suis jamais autorisée par la suite... Mais la dernière fois que j'ai eu le cœur brisé en mille morceaux, c'est exactement ça. Les seuls moments où je me sentais bien et où j'avais l'impression que ma vie avait un sens, c'était quand j'étais avec cette personne. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est malsain en fait? Qu'est-ce que c'est malsain? Donc bref, deuxième amoureux, pareil. Je change de personnalité, je fais tout pour plaire à cette personne. Je fais ma première fois hyper jeune, trop jeune, beaucoup trop jeune. Parce que justement, en fait, encore une fois, J'étais pas vraiment consciente des décisions que je prenais, enfin de l'impact que ça allait avoir derrière. Donc, je sais plus pourquoi je disais ça, pour ma première fois, je crois. Je fais ma première fois super tôt, je sais pas, peut-être parce que j'avais peur de perdre ce garçon, ou je sais pas trop qu'est-ce que j'ai foutu, mais en tout cas, c'était trop jeune. Ça a encore plus fucked up la relation que j'avais avec mon corps, genre ça m'a pas aidé parce qu'en fait il m'a largué genre une semaine après qu'on ait fait notre première fois. Donc là tu vois, déjà le cœur brisé que j'avais eu avant c'était violent, mais alors là c'était encore pire parce que j'ai commencé à directement me dire que j'étais un problème, j'ai commencé à me dire je suis trop moche, j'ai commencé à en vouloir à mon corps, j'en voulais à à mon corps d'être comme ça. Enfin, bref, vraiment mal-être à son pic. Et encore une fois, j'ai pas soigné mon cœur toute seule parce qu'il a fallu que je trouve une autre target. Il a fallu que je trouve quelqu'un d'autre à qui donner mon cœur et à qui, enfin, de qui tomber éperdument amoureuse pour me sentir mieux. Parce que je ne pouvais pas, je me suffisais pas. Je ne me suffisais pas, moi toute seule, j'arrivais pas à me sentir bien. Je n'avais aucune, enfin mon estime de moi était nulle, était de 0,5. Parce que je me disais quand même que j'étais, je sais pas, j'avais une partie de moi quand même qui avait de l'empathie pour la personne que j'étais. Mais je me détestais sur plein d'autres points. Attendez, je bois un peu parce que là, je sais pas si vous vous rendez compte. Ouf, tout ce que je déblate depuis tout à l'heure là, c'est grave. Bon, du coup, vu qu'ils ont annulé mon matcha, c'est trop triste. J'ai rempli un verre d'eau, j'ai pris une paille, juste pour avoir l'impression que je bois un truc hyper bon, alors que c'est de l'eau. Voilà. Ouais, ça m'a suivi pendant longtemps, ce truc-là, d'avoir besoin de quelqu'un pour me sentir bien. Ensuite, ça a bavé aussi sur l'amitié. Ça a débordé un peu sur tous les aspects de ma vie. D'abord, c'était dans mes relations amoureuses, et ensuite, c'était dans les amitiés. Ce qui a fait que j'ai quand même eu... J'ai eu de la chance. Ah, yes. I'm recording. Babe, I'm recording a podcast. You really have to make an entrance like this. Just, Paco, go with daddy. Go with daddy. Voilà. Can you close the door? Thank you. Bye. Voilà, c'était une petite intervention de mon chéri. Ouais, c'est l'heure de mec à venir me prendre la tête parce que j'ai pris son verre d'eau. Qui fait ça? Qui fait ça? je sais plus ce que je disais, je crois que... Ah oui, voilà, ça a commencé à détendre un peu sur tout le reste. Et j'ai eu de la chance parce que j'ai ma meilleure amie que j'ai rencontrée quand j'avais 14 ans, donc en plein milieu de cette période de... où tout a un peu commencé, où j'ai commencé à vivre à travers mes relations amoureuses. C'était pas la meilleure période pour être amie avec moi parce que je faisais toujours passer ma relation avant tout. Et ça a duré pendant très longtemps et ça m'a causé du tort. J'étais vraiment le genre de copine, mais j'ai pas, enfin si, j'ai honte de le dire parce que c'est pas cool d'être comme ça, mais je pouvais te lâcher à n'importe quel moment si c'était pour être avec ce garçon, cette personne dont j'étais éperdument amoureuse. Et donc tu pouvais pas vraiment compter sur moi réellement. Je pouvais vraiment te faire des coups, de t'annuler un truc au dernier moment parce qu'il fallait que je sois avec cette personne. Enfin, et je ne répondais pas vraiment de moi. Aujourd'hui, heureusement, ça a bien changé. Je ne suis plus, je ne suis plus cette personne, heureusement. Mais pendant longtemps, je l'ai été. Hein. Je l'ai été parce que encore une fois, je vivais qu'à travers les relations que j'avais. Et j'ai eu de la chance, j'ai eu une meilleure amie qui a su supporter tout ça et qui était un peu le soleil de ma vie. Et j'ai envie de dire, j'étais même too much. J'étais too much parce que c'est pareil en fait, vu qu'elle m'apportait ce confort et cette validation et qu'elle me faisait me sentir... j'avais l'impression d'être une personne cool quand j'étais avec elle, et chose que je n'arrivais pas à ressentir toute seule, ben c'est pareil en fait. Je ne vivais qu'à travers notre amitié. Une fois que j'ai eu le cœur brisé par ce troisième amour, parce que voilà, encore une fois, c'est inévitable, hein, adolescence, tout ça. C'est la dernière fois d'ailleurs que j'ai eu le cœur réellement brisé. La dernière fois que vraiment j'ai senti ce truc horrible dans mon ventre et l'impression que genre le monde, c'était la fin du monde pendant quelques secondes, c'est quand j'avais 15 ans et que bah, du coup ce garçon m'a brisé le cœur. C'était horrible, vraiment c'était comme dans les films, je m'en souviens encore comme si c'était hier. Je me dis, j'espère qu'il n'y a aucun risque qu'il écoute ce podcast parce qu'en racontant cette situation, il va se reconnaître, mais il n'y a aucun risque. Et puis dans tous les cas, au pire du pire, c'est pas grave. Voilà, frère, si t'écoutes ce podcast, t'inquiète, tout va bien, tu m'as brisé le cœur, mais j'ai survécu. Et voilà quoi, mais sache que ça m'a traumatisée assez pour que je me rappelle exactement de tous les détails de cette journée. Et en gros, j'ai grandi dans la campagne, et j'étais dans un collège de campagne, et c'était un village, et du coup, enfin, tu sais, c'était pas... entre potes, on traînait pas en ville, parce qu'il y avait pas, c'était pas la ville. Et on avait un squat. On traînait dans un squat que les garçons avaient aménagé. Mais en gros, voilà, on était un groupe. Il y avait beaucoup de garçons et pas trop de meufs. Hein. Je crois que c'était genre 6 garçons contre 3 meufs. Donc nous, on avait un peu l'impression d'être des tomboys, d'être un peu genre les meufs cool qui traînent avec des garçons. Alors que pas du tout, voilà. Davy, arrête. Arrête, hein. Quand tu rentres chez toi, t'écoutes du Beyoncé et du Taylor Swift dans ta chambre, tu n'es pas un tomboy. C'est pas parce que tu portes des Vans et que tu mets une casquette que tu es un garçon manqué, Davy. Non. Bref, on traînait avec les garçons et du coup, ils avaient aménagé un peu le squat, ils avaient mis des palettes et tout. On avait une sorte de petit canapé lounge. Et surtout, c'était aussi l'endroit parfait pour consommer des substances illicites. Alors, je vous rassure de suite, c'est pas des drogues dures, hein. Voilà, on est d'accord, mais voilà, on fumait. Voilà, on fumait de... Vous avez compris. Je sais pas pourquoi je suis gênante, là. Là, je suis gênante. Ça devient gênant. Vous avez compris. Je faisais genre que j'appréciais alors que je finissais en bad trip au bout de trois lattes que je tirais. Vraiment. Je suis la personne qui a le moins de tolérance pour les substances illicites au monde. Hein. Il n'y a pas une seule fois où j'ai consommé un truc sans que ça finisse mal. Je me rappelle encore de l'odeur. Il pleuvait ce jour-là. Il pleuvait. On était tous dans ce squat. Tous les garçons étaient en train de fumer. Genre ça sentait la weed. Et puis à un moment, du coup, mon amoureux de l'époque me dit, viens, faut qu'on parle. Aïe, 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 le viens, faut qu'on parle, qui tu sais, tu le sens. Tu le sais au fond de toi, tu veux pas te l'avouer, mais tu sais que ça pue, le viens, faut qu'on parle. Faut qu'on parle, et évidemment, on se met à l'écart, on commence à parler, et je me souviens que c'est moi quand même qui ai pris le dessus et qui ai dit un truc du genre, ouais, genre, dis-le-moi. Bref, je sais plus ce que j'ai dit exactement, mais en gros, je lui ai dit, vas-y, crache le morceau, commence pas à me mener en bateau, à me dire, ouais, c'est pas toi, c'est moi, de machin, ta gueule, dis-moi ce qu'il y a à dire. Il me dit la chose, évidemment, je me mets à chialer, évidemment, il me prend dans ses bras. Il pleut en plus, il pleut donc. Genre, oh mon Dieu, un film le truc. Super triste. Et bref, de là, mon cœur brisé pour la troisième fois et la dernière fois parce que vraiment, pour le coup, je l'ai très, 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 très mal vécu. Et c'est là que je me suis totalement réfugiée dans mon amitié avec ma meilleure amie. J'allais dire ma meilleure amie de l'époque, mais en fait, je la considère toujours comme ma meilleure amie parce que c'est le genre d'amitié. Tu sais, t'as beau évoluer différemment, t'as beau partir un peu dans des directions différentes et on vit plus au même endroit, on se voit pas souvent. On se voit une fois par an, mais à chaque fois que tu revois cette personne, il n'y a rien qu'à changer. Tu te sens toujours autant à l'aise et autant à la maison. Je pense que vraiment, tu pourrais me mettre n'importe où dans le monde avec cette personne et je me sentirais bien. Parce que tu sais, tu te sens pas jugé, tu peux être toi-même. Enfin, bref, une meilleure amie, quoi. Sauf que, bah, évidemment, cœur brisé, grande dépendance affective, je perds cette validation que j'avais de la personne avec qui j'étais. Je me retrouve un peu délaissée et donc je mets toute mon énergie et je rejette mon dévolu sur ma meilleure amie qui avait aussi un copain à cette époque-là. Et là commence le truc de jalousie et de ouais, tu t'en fous de moi. Et bref, tous ces trucs hyper malsains que tu ressens en fait quand t'es dépendant affectif. Tu vois le mal partout. T'as l'impression qu'en fait, dès que tu reçois pas l'attention que tu veux de quelqu'un, Enfin, c'est comme si c'était un peu un miroir. Tu as l'impression que c'est toi le problème et du coup, tu vas le rejeter sur l'autre. Et ça crée tout le temps ce truc d'embrouille. Et je pense que toutes les personnes qui savent qu'elles sont dépendantes affectives, elles se reconnaissent. C'est jamais des relations saines quand t'es dépendant affectif de l'autre. Parce qu'il y a toujours un moment où ça va bloquer parce que tu ne peux pas vivre à travers quelqu'un et tu ne peux pas demander à quelqu'un de porter ta confiance en toi sur ses épaules tout le temps. Et ça, c'est un truc que j'ai compris avec le temps. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense que je vais beaucoup mieux dans mes relations amicales, dans mes relations amoureuses. J'ai compris que c'est pas le rôle des gens de faire ça. C'est un truc que moi, je dois ressentir vraiment au fond de moi et c'est un travail que je dois faire. Et de me dire que je peux me sentir bien seule. Genre, je peux me dire je m'estime, voilà, c'est ça le mot que je cherche. Genre, je m'estime toute seule, j'ai pas besoin qu'on soit constamment en train de me le faire comprendre. Quand je dis qu'aujourd'hui, je pense que je suis encore un peu dans cette dépendance affective, c'est je pense qu'on l'est tous un peu. Je pense qu'on l'est tous un peu parce qu'on est des humains et qu'on a besoin de réconfort. On a besoin de sentir que... Je sais pas, de sentir déjà qu'on est utile. Ça, c'est un truc aussi qui me fait extrêmement peur et je pense que ça mérite un épisode de podcast à part entière. Le fait de... J'ai peur de ne pas être utile. C'est ma hantise. Et c'est hyper malsain aussi parce que... Et peut-être même prétentieux. Hein. Peut-être que c'est prétentieux de dire je veux être utile. Enfin, je suis qui pour prétendre que je suis utile pour quelqu'un. C'est encore un questionnement qu'il faut que... J'ai pas l'énergie pour ça, là. J'ai pas l'énergie pour ça, mais... je pense que c'est normal, c'est le réconfort et c'est humain, c'est satisfaisant. Quand tu sens que t'es important pour quelqu'un, quand tu sens que quelqu'un t'apprécie, ça te réchauffe le cœur, ça te fait du bien et on en a tous besoin, plus ou moins, à une plus ou moins grande échelle. Et c'est pour ça que je pense qu'on est tous un petit peu dans une dépendance affective. Encore plus, je dirais, les couples qui ont vécu la pandémie ensemble, les couples qui étaient H24 ensemble en 2020, là, quand il y a eu les mois où on était enfermés, je me dis, mais les gars, franchement, comment vous avez fait? Et aujourd'hui, ça ne m'étonnerait pas que ces personnes-là soient dépendantes affectives l'une de l'autre, parce que tu vis constamment avec une personne H24, tu t'habitues à tout faire avec la personne, tu t'habitues à la sensation que c'est de jamais être seule, et c'est un truc qui se fait normalement, c'est naturel, et au final, enfin, je sais pas, je dis pas que c'est un peu inévitable, mais... Ouais, j'ai pas de fin à cette phrase, mais en tout cas, je vais beaucoup mieux aujourd'hui par rapport à ça, mais je ressens quand même que j'ai un peu une dépendance affective. Amoureusement, je pense que c'est fini. Amoureusement, après ce cœur brisé qui m'a vraiment fait extrêmement mal, et je suis un peu émotive d'en parler parce que, tu sais, fin, ça a vraiment duré longtemps. J'ai eu le cœur brisé pendant très longtemps, j'ai eu le cœur brisé pendant bien 5 ans. Où vraiment c'était le flou, c'était compliqué pour moi d'arriver à voir clair et de me dire que je finirais pas ma vie avec cette personne, de me dire que cette personne elle m'apprécierait jamais comme moi j'ai envie qu'elle m'apprécie. Elle même encore aujourd'hui, je me dis genre est-ce qu'il est tombé sur mon Instagram, est-ce qu'il m'a vu, est-ce qu'il pense toujours la même chose de moi, est-ce que... Enfin, tu sais, genre, ça m'a tellement torturé la tête que même encore aujourd'hui, genre, j'arrive à penser un peu à ça des fois, mais quand j'ai dû faire le deuil de cette relation et de me dire que il m'aimerait jamais comme moi je l'aime et il y aurait plus jamais ce truc, et que ça se trouve, il m'a jamais aimé comme moi je l'ai aimé et qu'il m'a jamais vraiment vu, parce que c'est ça aussi. Il y a un truc que j'ai énormément regretté, c'est que, bah, vu que je faisais tout pour qu'il m'apprécie, désolée, on dirait que je suis en train de chialer. Pas du tout, les gars. Juste, j'ai besoin d'eau. Attendez. Promis, je suis passée au-dessus de ça. C'était à 10 ans, pile poil. J'avais 15 ans, donc c'était il y a 10 ans. Donc ça va mieux. Mais vu que je faisais tout pour qu'il m'apprécie, j'étais pas vraiment moi, en fait. Je m'adaptais à ce que lui, il aimait. Je m'habillais comme lui, il aimait s'habiller. Je m'autorisais jamais à être vraiment moi-même. Et je me souviens même que j'avais eu une discussion avec sa maman, qui était une personne d'ailleurs que fascinante, vraiment, pour le coup. Ça, c'est aussi un truc, ça brise le cœur. Hein. Quand tu te sépares de quelqu'un et que tu peux plus voir la famille, ah, c'est une souffrance qui est encore plus... C'est chiant parce que, tu sais, ils ont rien à voir avec ça. Et des fois, tu te lis vraiment. Genre, il y a des liens qui se font avec la famille de la personne et tu sais que tu peux plus les voir parce que c'est trop chelou, tu vois. Mais en même temps, ça te fait chier parce que c'est des gens qui sont cool. Et vraiment, pour le coup, il avait une maman avec qui j'avais des discussions un petit peu profonde à mon niveau d'adolescente de 14 ans, hein, évidemment. Mais je pense qu'elle l'avait remarqué. Elle le voyait en tant qu'adulte, hein, qui voit son fils avec sa première copine, enfin bref. Et je me souviens qu'elle me le disait souvent. Elle me disait souvent, mais ose regarder les gens dans les yeux. Arrête de cacher ton visage. Montre ta personnalité. Enfin, je me souviens que vraiment, elle était investie là-dedans et qu'elle l'avait vu. Donc c'est vraiment que c'était gros comme une maison de l'extérieur. Hein. Mais du coup, ouais, je pense qu'il a jamais vraiment su qui j'étais, ce garçon, au final. Donc que ça m'ait affectée pendant si longtemps, c'est encore plus triste parce que j'étais pas moi-même, en fait, quand j'étais avec lui. J'étais la personne que je pensais qu'il fallait que je sois pour qu'il m'apprécie. C'était compliqué comme phrase, mais vous avez compris. Et ça, c'est un truc que j'ai énormément regretté et que je me suis promise de ne pas reproduire après ça. Et du coup, aujourd'hui, en amour, après ça, j'ai eu d'autres relations un petit peu foireuses aussi. Enfin bref, j'ai eu une relation aussi assez saine quand même pendant 4 ans. Comme je vous l'ai déjà dit plein de fois, j'ai enchaîné. Hein. J'ai pas beaucoup été célibataire dans ma vie parce que justement... C'était compliqué pour moi d'être seule et de m'apprécier. Voilà. Mais... Et des fois, je parle avec les gens et les gens me disent « Mais tu crois que t'es vraiment amoureuse, Davy ?» Parce que c'est chelou ce que tu dis. De dire que t'as besoin d'être seule des fois, de dire que tu peux aller faire des trucs sans ton copain et que tu te sens bien, de dire que, enfin, de partir 2 mois sans lui et de d'être ok avec ça et tout. Les gens me disent mais t'es sûre? Et je dis mais en fait oui, totalement, totalement. C'est pour moi en fait c'est ça l'amour sain, c'est de me dire que je dépends pas de cette relation pour être bien aujourd'hui. Et ça c'est mon plus gros flex, c'est mon plus gros flex dans la vie, parce que je veux plus jamais d'un amour comme ça en fait. Je veux plus d'un amour où j'ai l'impression que mon monde s'effondre si j'ai plus la personne. Et peut-être qu'il y en a qui vont dire que c'est ça le vrai amour et que si tu ressens pas ça c'est pas vraiment de l'amour, que si t'es pas prêt à mourir pour la personne c'est pas vraiment de l'amour. Pour moi c'est faux totalement, et pour moi aujourd'hui je suis dans ma première relation vraiment saine parce que je kiffe ma vie avec la personne avec qui je suis et je kiffe ma vie sans cette personne. Mais bon, ça je l'ai déjà rabâché plein de fois donc on s'en fout. Mais du coup quand je dis que j'ai encore un peu de dépendance affective, c'est parce que j'ai énormément de dépendance affective du côté de ma famille. J'ai besoin de me sentir validée par mes parents énormément, et ça c'est un truc bête parce que mes parents ils m'ont toujours donné la validation dont j'avais besoin. J'ai les parents c'est mes plus grands fans, voilà. Je sais pas si j'aurais pu trouver mieux, mais vraiment mes parents sont fans de moi, je pourrais faire caca devant eux, ils ramasseraient ça comme si c'était de l'or, enfin j'abuse un peu, mais vraiment j'ai toujours eu énormément de validation de mes parents. Je sais pas comment l'exprimer autrement, mais du coup vu que je suis habituée à avoir ça, et c'est une chance hein, c'est une chance et j'en ai conscience, et vraiment je me dis, enfin j'ai eu de la chance d'avoir des parents qui ont toujours été là, quoi que je fasse, ils ont toujours été mes premiers supporters, ils m'ont toujours encouragée. J'ai pas un seul souvenir de mes parents qui me poussent vers le bas. J'ai pas ça et je me dis mais quelle chance, et je le mesure et je peux pas me mettre à la place de personnes qui ont pas forcément eu ça, et j'en ai complètement conscience et je suis un enfant privilégié. Voilà, j'ai aucune honte à le dire. J'étais privilégiée parce que justement j'ai eu ces parents-là qui ne m'ont jamais tiré vers le bas. Peu importe, même quand je faisais de la merde et qu'ils le savaient. Parce qu'ils sont pas non plus aveugles. Hein. Moi là, je suis dans mon délire de vous dire « Ah, c'est mes plus grands fans », mais je sais très bien que ça reste quand même mes parents et que même quand je faisais des trucs nuls, ils le savaient. Hein, ils sont pas non plus bêtes, ils le savaient, mais jamais de la vie, ils me l'ont montré. Jamais de la vie, ils m'ont montré quand ils s'inquiétaient pour moi, quand ils étaient incertains de mon futur, quand j'étais en dépression au fond de mon lit, que je séchais les cours. Ma terminale, je l'ai pas faite. Ma terminale, j'ai séché 50% de mon année. J'étais dans le classement des 2 personnes les plus absentes de l'établissement. Et même à cette période-là, où j'étais vraiment un sac de je sais pas, enfin j'étais vraiment pas à mon top quoi. Même à cette période-là, j'avais des parents qui étaient là pour me dire ça va aller. Genre tu vas t'en, c'est, il y a forcément une solution. Ils croyaient en moi vraiment profondément, des parents en or, bref. Mais du coup, aujourd'hui, j'ai quand même toujours besoin. Je suis une petite fille à papa maman. Voilà. C'est dit, c'est ouais, enfin c'est vrai hein. J'ai presque honte de le dire. En même temps, j'ai pas honte parce que c'est la vérité. Genre, j'ai besoin de sentir que mes parents, ils sont fiers de moi. J'ai besoin de tout le temps dès que j'ai des questions, dès que j'ai un choix à faire, je vais appeler ma mère pour lui demander qu'est-ce qu'elle aurait fait à ma place. Et j'ai besoin de me sentir validée par eux. Et une autre dépendance affective que j'ai, c'est... Et je sais pas trop si on peut appeler ça une dépendance affective ou non, parce que c'est pas vraiment une relation qui est réelle, mais entre vous les gars et moi, vous allez me prendre pour une tarée, hein. Mais votre opinion m'importe beaucoup, voire même un peu trop. Et votre affection m'apporte beaucoup, voire même peut-être un peu trop, et peut-être que je devrais me protéger parce que je suis pas à l'abri que vous me brisiez le cœur aussi, hein. Non, je rigole, mais vous avez compris, enfin... Je vous disais tout à l'heure que j'avais un peu appris à passer au-dessus et que j'évitais de porter trop d'intérêt aux commentaires négatifs, ce qui est vrai. Par contre, les commentaires positifs, c'est une autre histoire. Je disais tout à l'heure que j'ai de la chance, j'ai des gens super bienveillants qui me suivent ici sur le podcast, sur Instagram, sur YouTube, sur toutes les plateformes où je partage ma vie, qui est un peu... On dirait que tout est très bien carré, tout est bien beau, des belles images, alors qu'en fait, c'est un peu un bordel. Hein, voilà. D'ailleurs, je compte très bientôt vous faire une vidéo sans romantiser ma vie, genre en vous montrant réellement ce que c'est une journée avec moi, sans petite musique mignonne et sans belles images de moi qui me fait des œufs, tu vois. C'est fou parce qu'avec YouTube et les réseaux, tu peux rendre tout super glamour. Et c'est trop bien parce que j'adore ça. J'adore le processus de rendre une situation mille fois plus belle qu'elle l'est vraiment, avec les bons angles, avec la bonne musique, avec les bons sons. Genre capturer un moment et le rendre mille fois plus beau, je trouve ça trop cool. Genre le process de faire ça, c'est génial, mais la réalité, c'est que c'est pas vraiment ça, tu vois. La réalité, c'est que bah, t'as beau montrer ce que tu veux sur les réseaux, t'as beau rendre tout magnifique, au final, t'es juste en train de te cuisiner des œufs dans ta cuisine, quoi. Enfin, bref. Mais du coup, je me suis un peu perdue dans ce que je disais. Ouais, j'ai de la chance. J'ai majoritairement des gens qui sont positifs et des gens qui me laissent des commentaires. Des commentaires qui m'encouragent. Et j'avoue que, même si j'aimerais que ce soit pas le cas, je suis un peu devenue addict à ça. Et j'aimerais... Oh là là, qu'est-ce que j'aimerais vous dire que c'est pas vrai, mais c'est... Enfin, et franchement, je l'ai admis. Enfin, je me le suis admis à moi-même il y a pas moins d'une semaine. Hein. Donc c'est tout frais. Mais je m'en suis rendu compte parce que mon mood varie en fonction de la validation que les gens m'apportent en ligne. Et ça, c'est vraiment un truc, maintenant que je m'en suis rendu compte, maintenant que je le sais, que je veux absolument effacer, gommer, et je veux m'en débarrasser au plus vite parce que je sais que c'est hyper malsain pour moi, mais les statistiques, les likes, les commentaires, le contenu des commentaires, tout ça, c'est un truc... Qui m'affecte beaucoup plus que ce que je voulais me l'admettre. Je pensais vraiment pas que ça m'affectait autant, puis je me suis rendu compte que, au final, quand j'avais moins de commentaires, ou quand j'avais moins de retours positifs, quand j'avais moins de likes, ou moins de toutes ces choses-là, je me sentais pas aussi bien. Et qu'à l'inverse, quand je recevais beaucoup de validation des gens, et que je recevais beaucoup de commentaires, beaucoup de likes, tout ça, je me sentais mieux. Et c'est super triste. C'est triste, même si c'est un peu l'objectif de tous les créateurs de contenu. Même si, on va être honnête, quand ça devient ton travail, c'est logique, c'est satisfaisant quand tu vois que ton travail plaît aux gens, parce que les gens qui veulent pas admettre que c'est du travail, créer du contenu sur les réseaux, c'est du travail, tu passes du temps derrière ton écran, tu passes du temps à créer des choses pour que justement les gens l'apprécient. Donc quand les gens te montrent qu'ils apprécient, ça fait toujours plaisir. Mais de là à impacter ta confiance en toi et comment tu te sens envers toi-même, je trouve ça super triste et super dangereux et j'ai pas envie de tomber encore plus profond là-dedans parce que c'est pas fou pour moi, quoi. C'est pas fou pour moi parce que j'aurai pas tout le temps cette validation. Du jour au lendemain, c'est un truc qui peut s'arrêter. Voilà, les réseaux, ça reste un truc virtuel. Du jour au lendemain, c'est un truc qui peut s'arrêter. Tu sais jamais ce qui peut se passer. Tu peux pas dépendre de commentaires et d'amour d'inconnus. Même si j'aime pas dire que vous êtes des inconnus, mais en même temps, c'est la réalité. Je peux pas faire genre, on est les meilleurs potes du monde, je vous aime trop. Oui, je vous kiffe et je vous aime à un niveau d'amour, vous avez compris, de gens que je n'ai jamais vus et c'est pas comme j'aime mes parents par exemple. Mais oui, j'ai énormément d'affection pour vous, mais je peux pas être là comme ça, on est les meilleurs potes du monde, vous êtes mes meilleurs amis et nanana et pff, c'est fake. Tous ces gens-là, d'ailleurs c'est un truc qui m'insupporte énormément parce que c'est créer de la fausse proximité avec les gens. Tu peux remercier les gens d'être là et de te supporter et de te soutenir. Tu peux remercier les gens et juste, être reconnaissant. Oui, mais après, créer ce faux lien et faire genre, on est des meilleurs amis et je vous considère comme ma famille et tout. Ça, c'est faux, les gars. Et ne tombez jamais dans le panneau de ces gens qui vous font miroiter des choses comme ça parce que c'est pas vrai. Ces gens-là, demain, ils vont pas aller boire un café avec vous. Vous voyez ce que je veux dire ? Genre, faut pas non plus tomber dans le cringe et dans la fausse gentillesse et le faux amour, parce que c'est pas vrai, mais en tout cas, je pense que j'ai développé un petit souci avec ça et que j'ai pas envie que ça aille plus loin que ça et qu'il faut que je me protège et que je prenne toutes les choses positives qu'on me dit et les choses négatives aussi quand elles sont réelles et qu'elles sont importantes à entendre, parce que je suis quand même ouverte à la critique quand elle est constructive. Genre, je suis la première à me remettre en question, il n'y a aucun souci avec ça. Mais il faut que je protège un peu... Ouais, il faut pas que je sois dépendante de ça, en fait, parce qu'encore une fois, c'est de la dépendance affective. C'est une dépendance affective qui est complètement différente et virtuelle, et il n'y a pas le toucher, il n'y a pas toutes les choses que tu as dans une relation amoureuse, mais ça reste quand même une forme de... C'est comme si j'avais déplacé la dépendance affective que j'avais dans mon couple sur un autre truc, qui est ma communauté en ligne. Et vu que maintenant j'ai ça, et que j'ai toutes ces centaines de milliers de personnes qui me suivent et qui me regardent, ben j'ai toujours un peu ce truc de « il faut que je continue à leur plaire, il faut que je sois, que je fasse le meilleur contenu pour eux, il faut que je sois utile pour ces gens-là, etc. » Et du coup, certes, dans ma relation amoureuse, j'ai plus ce truc, mais je l'ai déporté sur autre chose. Et c'est pas bien parce que je me dis « est-ce que vraiment un jour, je pourrais ne dépendre de rien de tout ça ?» Ne pas dépendre de la validation de mes parents, ne pas dépendre de la validation de mes potes, ne pas dépendre de la validation d'internautes, de gens derrière leurs écrans. Je me dis, est-ce que vraiment un jour je serai tranquille et est-ce que je pourrais juste me dire, quoi qu'il arrive, je suis une bête de meuf. Et le penser réellement. Et je pense que c'est un peu la clé de la confiance en soi, c'est d'être un peu dans la désillusion. Ça marche pas. Si t'es pas juste dans la désillusion et que t'arrives pas à te dire vraiment... Je suis that bitch, genre je suis une bête de meuf, et le penser réellement, sans forcément le dire, hein. Sans forcément le crier sur tous les toits, parce que tu vas passer pour quelqu'un de narcissique et d'insupportable, ce qui n'est pas le but. Et encore une fois, se sentir bien dans sa peau, c'est pas se sentir supérieur aux gens, ok ? Il y a une différence entre les deux, s'il vous plaît, ne tombez pas dans le truc de te sentir au-dessus des gens. T'as pas besoin de te sentir au-dessus des gens pour te sentir bien dans ta peau, ça c'est un autre truc, mais... Non, mais juste de te sentir bien et d'être dans la désillusion de te dire, genre, même si t'as plein de défauts parce que t'es humain et t'as forcément plein de défauts. Moi, je suis bourrée de défauts, hein. Et des fois, j'aimerais ne pas en avoir autant conscience parce que je pense que ça me bloque justement de vraiment me sentir bien avec moi-même. Le fait de tout le temps me focus sur mes défauts et d'en faire tout un truc. Genre, des fois, vraiment, je vais me poser dans mon canapé et faire une fixette sur un défaut que j'ai et me convaincre moi-même que je suis la pire personne sur Terre, alors que c'est pas le cas. Voilà. C'est pas le cas. Je suis pas la pire personne sur Terre. Il faut que j'arrive un jour à vraiment penser que je suis une bonne personne et que j'arrête de... T'as plein de défauts, ok ? T'as plein de défauts et si tu t'arrives pas à être un peu dans la désillusion et te dire que t'es... Je sais pas comment expliquer ça, je sais pas si je pars un peu trop loin, mais juste c'est un peu la clé de la confiance en soi et ça c'est un travail je pense qui est très très long et je suis passée au-dessus du travail de la relation avec mon corps. D'ailleurs promis, je prépare un podcast update sur tout ça, sur ma relation avec mon corps. Aujourd'hui j'arrive enfin à sortir la tête de l'eau et j'arrive à me sentir bien avec mon corps, mais c'était que le dessous de l'iceberg. Moi qui pensais qu'une fois que je serais bien avec mon corps, ça allait, tout allait rouler comme sur des roulettes. Tout allait rouler comme sur des roulettes. Ouais, je sais pas si c'est... Bref. Je sais pas m'exprimer, j'ai un podcast, c'est trop drôle. C'est trop drôle. La meuf ne parle pas français et elle a un podcast. C'est fou, comme quoi tout est possible les gars, tout est possible. Mais je pensais que c'était vraiment le combat d'une vie de se sentir bien dans son corps, mais en fait non. T'arrives... en haut du truc, et en fait, t'as tout un truc qui se cache en dessous. Genre, c'est que la partie visible de l'iceberg. Voilà, c'est ça. Et en dessous, t'as l'intérieur, se sentir bien en tant que personne. Et ça, ouh, qu'est-ce que c'est dur. En fait, je me focalisais sur des choses extérieures, sur mon apparence physique, sur des choses superficielles, parce que je n'avais pas encore les épaules pour m'attaquer à ce qui se passait à l'intérieur. Je pense que j'ai toujours pas ces épaules-là, mais j'ai plus le choix, là. Maintenant que ça va mieux et que je laisse mon corps tranquille et que j'ai fait la paix et qu'on est potes maintenant, il faut que je m'attaque à la personne que je suis et faire la paix avec la dévie qui n'a jamais vraiment appris à se sentir bien sans être validée constamment. C'est ça, en fait. Et j'aimerais trop finir cet épisode en vous donnant plein de conseils, en vous disant il faut faire ça pour ne plus être dépendant affectif. Mais j'ai pas vraiment encore les réponses à tout ça. Je dirais que si vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de dépendre affectivement de votre partenaire, de votre amoureux ou d'autre amoureuse, dans ces cas-là, j'ai des conseils. Et ces conseils, ça serait déjà dans un premier temps de te rendre compte que c'est pas juste. Ce n'est pas juste de demander autant à quelqu'un si tu l'aimes vraiment. C'est très différent si vous êtes tous les deux dans une situation où vous êtes dépendants affectifs l'un de l'autre. Ça, vraiment, faut que vous vous ayez une conversation à deux de ça, parce que je pense que c'est encore plus compliqué quand ça se passe comme ça. Mais déjà, comment te rendre compte que t'es dépendant affectif? Ben, comme je pense que en écoutant tout ce que j'ai dit, peut-être que t'as dû t'en rendre compte, mais c'est quand ton monde tourne autour d'une personne. C'est quand vraiment tu te vois pas faire des choses seule. Tu peux pas te dire cet après-midi je vais le passer seule, alors que t'as l'occasion de le passer avec cette personne. Tu te sens bien qu'avec cette personne. Dès que la personne va te dire un truc, tu vas le prendre au mot et tu vas totalement te remettre en question. Tu vis à travers les yeux de la personne. Tout ce qui t'importe, c'est de plaire à cette personne. T'as constamment peur que cette personne ne t'aime plus. Donc tu poses toujours des questions débiles de genre « ça va, tu m'aimes encore, il y a un problème ». Dès que la personne va se comporter un peu froidement ou qu'elle va avoir une phase où elle est pas bien, plutôt que de penser à l'autre et de te dire genre « qu'est-ce qui va pas, comment je peux t'aider ?», tu vas dire « c'est quoi, c'est moi le problème ». Tu vas retourner le problème sur toi et tu vas dire « qu'est-ce que j'ai fait de mal ?», alors qu'en fait la personne peut-être qu'elle a juste besoin que tu sois là pour elle. En silence ou j'en sais rien, mais juste que tu sois là pour elle et que t'arrêtes de tout le temps tout remettre sur toi, voilà. Et ta vie tourne autour de la relation. Si tu réunis tout ça et que tu te reconnais là-dedans, alors peut-être que oui, t'es dépendant affectif. Et comme je disais, c'est injuste. Tu peux pas demander à quelqu'un de porter ta confiance en toi à bout de bras parce que ça va fatiguer la personne, que tu vas l'épuiser et que la personne va finir par réellement, en fait, pas perdre l'amour, mais ça va être too much pour la personne. Tu vas l'étouffer et elle va se dire je vais pas pouvoir en fait continuer comme ça. Et donc tu risques de perdre la personne. Donc déjà ça c'est pas trop cool. Et puis ça serait un peu, pas envie de dire c'est de ta faute, mais tu comprends. Deuxième conseil du coup, ça serait de commencer à faire des choses seule. Que ce soit partir quelque part seule, un week-end seule. Je rentre d'ailleurs là d'un week-end seule. Bon, c'est pas grand-chose, mais j'avais besoin de juste être toute seule, de me retrouver seule, voilà. Et ça m'a fait grave du bien. Chose que je ne pouvais pas m'imaginer faire il y a quelques années. Parce que je me disais, pourquoi partir seule si je peux partir avec mon mec? C'est quoi le principe? Mais en fait, si, c'est hyper important que t'aies ton temps seul à toi et que tu puisses l'apprécier. Et apprendre à apprécier ta propre compagnie, ça fait du bien. Ça te fait du bien à toi, ça fait du bien à la relation. T'as plus confiance en toi, donc t'as plus de choses à donner à l'autre aussi. Donc fais des choses seule. Va au cinéma, va faire du shopping, ou peut-être évite de dépenser de l'argent, mais t'as compris, fais des choses que tu kiffes toute seule, n'aie pas peur de le faire seule. Travaille ta confiance en toi. C'est trop drôle, vraiment, c'est le cordonnier le plus mal chaussé qui parle, mais vous avez compris. Comme je disais tout à l'heure, c'est hyper important que t'aies confiance en toi sans que l'autre soit tout le temps en train de te dire t'es la plus belle, t'es la meilleure et je t'aime et machin et truc, parce que le jour où il sera plus là ou qu'elle sera plus là pour te le dire, bah tout ça, ça perdra son sens et tu pourras pas réellement le penser. Et te dire que si la personne elle est avec toi, c'est que tu lui apportes des choses. C'est que t'es une bonne personne, c'est qu'elle voit en toi des choses, des qualités que toi aussi il faut que tu vois avec tes yeux. Parce que c'est hyper important. De se dire à soi-même que ouais, je suis une personne cool et je mérite d'être aimée. Je mérite tout l'amour que je reçois. J'ai pas besoin d'être constamment en train de prouver des choses et en train d'impressionner l'autre, parce que il voit déjà en moi quelque chose qui est précieux et qui est important. Et quatrième conseil que j'aurais à vous donner, j'essaie de penser à des choses, mais accepter que... quand tu te mets en couple avec quelqu'un, tu deviens pas un binôme. Enfin, si, tu deviens un binôme en quelque sorte parce que peut-être tu vis avec la personne et que vous devenez liés. Mais acceptez que c'est important que vous ayez tous les deux, que vous êtes des êtres séparés. C'est pas en mode tu deviens la copine de ou la femme de. Oui, peut-être sur le papier, pour faire joli, tu deviens ça, mais tu es ta personne. Moi, je suis Davy. Mon amoureux, c'est Louis. Mais tous les deux, on forme un couple. Mais on est tous les deux des personnes à part entière avec les choses qu'on aime séparément. Nos centres d'intérêt, nos hobbies différents ne changent pas pour quelqu'un. Voilà, c'est ça. J'ai trop voulu le faire, moi. J'ai trop voulu le faire et du coup, ça a été très compliqué pour moi de trouver mon identité. Et c'est un truc qui m'affecte encore aujourd'hui. Parce que encore aujourd'hui, comme je le disais au début du podcast, j'ai des moments comme ça où je suis jamais tranquille. J'ai toujours l'impression que je me suis pas encore trouvée. Je suis tout le temps en train de me remettre en question et de me dire de me poser des questions qui sont too much parce que je me suis jamais réellement laissé le temps de me trouver parce que j'étais constamment en quête d'être assez bien pour quelqu'un et de changer de style vestimentaire, d'adapter mes goûts et enfin bref, tout ce que j'aimais en fait. Ouais, ne changez pas pour quelqu'un. Et d'ailleurs, si quelqu'un essaie de changer pour vous, c'est un red flag. Ça peut être très mignon, hein. Et ça dépend ce qui change, hein. Ça dépend. Genre si la personne devient moins jalouse ou qu'elle corrige un trait de caractère un peu chiant et que ça lui fait du bien aussi à lui, ou bref, ça dépend. Mais en tout cas, si quelqu'un se met à changer de style vestimentaire, à changer ses goûts musicaux, à changer sa personnalité pour vous plaire, c'est un red flag parce que vous allez faire du mal à cette personne. Et ça, vraiment, je le dis pour toutes les personnes qui vont commencer à fréquenter quelqu'un, c'est un truc que tu vois très rapidement quand une personne n'est pas vraiment elle-même ou qu'elle change pour toi. C'est pas mignon, c'est pas cool. C'est pas cool parce que cette personne, elle a pas appris à s'apprécier. Et si tu vois ce genre de comportement, n'hésite pas à dire à la personne, t'as pas besoin de changer pour moi. Parce que j'ai pas envie de tomber amoureuse d'une version de toi qui n'est pas vraiment toi. Et parce que ça finira jamais bien et que tu vas finir par la faire souffrir parce que tu peux pas, t'as beau faire semblant autant de temps que tu veux, le vrai toi, il restera toujours le vrai toi, quoi. Donc ne laisse pas quelqu'un changer pour toi. Toi, ne change pas pour quelqu'un. Voilà, ça peut très bien marcher, ok. Tu peux être... Regarde la preuve. Mon copain n'écoute pas de R&B. On a des goûts musicaux. Ouais, des goûts musicaux complètement opposés. On regarde pas les mêmes films. On est complètement différents l'un de l'autre. On a des points communs, mais on est complètement différents. Et ça n'empêche que... Voilà, tu peux créer des très belles relations. Et c'est pareil en amitié, c'est pareil dans tous les cas. N'essaie pas de changer pour quelqu'un. Apprends à t'aimer, à toi t'aimer tout seul. Si t'as besoin d'être seul, fais-le. Moi, je l'ai pas fait aussi. Ça a rendu tout beaucoup plus compliqué. Parce que je suis pas restée célibataire, chose que j'aurais dû faire. Être seul, parfois, c'est vraiment nécessaire et ça fait du bien. Donc si t'as actuellement le cœur brisé, ou que t'es célibataire, ou peu importe, que t'es seul, profite de ce temps-là que t'as pour toi. Profite de ce temps-là pour vraiment bosser sur ton amour de toi, t'apprécier un peu en tant que personne, en tant que la personne que tu peux être aussi pour les gens autour de toi. Je sais que ça va un peu à l'opposé de tout ce que je disais, mais moi, ce qui me fait me dire que je suis une bonne personne, et peut-être que c'est hyper pas bien ce que je suis en train de dire, et peut-être que c'est mon ego, j'en sais rien, mais quand je sens que j'ai un impact positif dans la vie d'une personne que j'aime, ça me fait me sentir bien. Je crois que c'est un des seuls moments où vraiment j'arrive à me sentir bien dans ma peau et avoir confiance en moi, c'est quand je sens que j'apporte un truc positif à quelqu'un que j'aime. Donc ouais, profitez de ce temps que vous avez seul pour vous concentrer sur vous, pour partager des beaux moments avec des personnes que vous aimez. Prenez ce temps, genre vraiment prenez ce temps et prenez-le comme une chance. On survit un cœur brisé aussi, ça aussi. Je pense que je ferai un épisode sur ça, mais vraiment, je sais à quel point ça fait mal, hein. J'étais au fond du trou, encore une fois, comme je vous ai dit, pendant longtemps, et je l'ai ressenti très fort. J'ai ressenti vraiment très fort ce cœur brisé. Et on survit, voilà, magie, wouh, ça se recolle, et voilà, tu gardes toujours des petites cicatrices et tout, mais tu survis un cœur brisé, c'est pas la fin du monde. Voilà, le monde va continuer à tourner demain, après-demain, les semaines qui arrivent, et le temps va bien faire les choses. Et tu vas évoluer en un Pokémon encore plus stylé que ce que t'étais avant. Et ça, c'est le seul point positif d'avoir le cœur brisé, c'est que si tu décides de prendre les choses positives, tu vas évoluer, mais tu vas devenir genre Winx Enchantix. Vraiment. Donc ouais, voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, c'est déjà beaucoup. J'ai beaucoup parlé. Je suis désolée si je parle vite, on m'a beaucoup fait la réflexion du fait que je parle vite, mais je n'arrive pas à parler plus doucement. J'essaierai de faire un effort, promis, la semaine prochaine, mais je vous jure, vu que j'organise pas mes podcasts et que je fais tout à l'improviste, ça sort de ma bouche en mode je dégueule des mots, tu sais. Et après, je peux pas. Si j'organise à l'avance, du coup, c'est moins naturel et je. Tu sais, enfin. C'est la façon dont je parle, quoi. Donc, désolée pour ceux à qui ça fait mal à la tête de m'entendre parler à une vitesse folle pendant une heure. Et pour ceux qui ont tenu jusqu'à la fin de ce podcast, merci les gars, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prenez soin de vous, Vous êtes des bêtes de meufs et de gars. Et je vous envoie tout mon love. Bisous!